Actualité Santé. Sandrine Mercier.
Bonjour à tous, bonjour, bienvenue, c'est Priorité Santé, 10 ans après la loi sur le handicap de 2005, où en est-on? Souvenez-vous, c'était le 11 février 2005, une loi a été votée en France pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Pile 10 ans après, on a envie de faire le point sur les progrès, mais aussi les disparités qui persistent pour les personnes handicapées. La vie est encore semée d'embûches, difficile d'accéder à l'école, aux soins, de se déplacer dans la ville, sans même parler des lieux de loisirs et des transports en commun. Et la mise aux normes, qui devait être effective en 2005, a été repoussée. Alors combien de temps les personnes handicapées devront-elles devoir attendre pour devenir des citoyens comme les autres? Santé, famille, sexualité, éducation, mobilité, accessibilité. Quelles sont les réalités de vie? Est-ce qu'elles ont évolué depuis 10 ans? Et comment améliorer leur prise en charge? Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 pour témoigner ou laissez vos messages sur notre page Facebook.
RFI.
Et pour en débattre aujourd'hui, j'accueille trois invités. Ségolène Neuville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci d'être avec nous aujourd'hui en direct. Madame la ministre, depuis avril 2013, et vous êtes, c'est important pour l'émission, vous êtes médecin hospitalier et vous assurez, vous continuez d'assurer d'ailleurs des consultations médicales à l'hôpital de Perpignan. Rien ne vous y oblige ?
Non, rien ne m'y oblige, mais en dehors de ma passion pour l'hôpital public et mon métier.
Donc vous y retournez deux fois par mois, vous donnez des consultations à l'hôpital de Perpignan.
Voilà, c'est tout à fait bénévole et c'est tous mes anciens patients.
Alors avec nous également Pascal Ribes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de l'Association des paralysés de France. Comment allez-vous? J'ai envie de vous poser la question, vous êtes en fauteuil roulant. Alors comment vous jugez l'accessibilité ici des studios de RFI?
L'accessibilité des studios de RFI est tout à fait acceptable et il n'y a pas de difficulté particulière. En revanche, pour arriver jusqu'ici, c'est toujours le parcours du combattant. Donc je n'ai pu arriver qu'en taxi puisque je n'ai pas pu prendre les transports en commun.
Voilà. Le métro, le RER, il n'y a pas de continuité.
Il n'y a pas de continuité dans la chaîne de déplacement, c'est vraiment trop compliqué.
Alors les progrès également, les brèches aussi dans la mise en place de cette loi, vous nous en parlerez. Également avec nous Pascal Jacob, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Handidactique et vice-président de la FIRA, c'est la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap. Alors vous êtes également un fervent défenseur de la cause de l'intégration des personnes en situation de handicap. Et en juin 2013, vous avez remis un rapport sur l'accès aux soins et la santé des personnes handicapées. Donc vous nous direz aussi ce qui pêche aujourd'hui dans ce domaine et les solutions que vous préconisez, puisqu'il y a eu une charte Romain Jacob qui est en train d'être signée. Mais aujourd'hui, alors vous avez adressé une lettre au président de la République, une lettre ouverte au nom de l'association Didactique. Alors 10 ans après la loi sur le handicap, qu'est-ce que vous avez à lui dire, monsieur le président?
Si vous voulez, en tant que parents, nous avons eu un gigantesque espoir sur la loi de 2005 qu'on a attendu, sur lequel on a travaillé. Et je dois vous dire que moi, je garde cet espoir et je suis résolument très optimiste pour que ça évolue. Parce que une loi aussi lourde que la loi de 2005 était difficile. Il y a trois points sur lesquels j'ai envie de faire réagir. La première, c'est la difficulté de faire vivre l'école de l'autonomie. L'école de l'autonomie, elle fonctionnera dans tous les domaines dès lors où elle aura un débouché dans une société accueillante et accompagnante. Car que lorsque l'on devient autonome, il faut pouvoir utiliser son autonomie dans la vie. Et ça, c'est très important.
Alors, on voit que c'est pas encore tout à fait acquis. On y reviendra tout au long de l'émission. On a une heure avec vous, Pascal Jacob. Mais la semaine dernière, il y a eu un sondage BVA, justement, qui va peut-être aussi dans le sens que vous dites, puisque les Français ont été interrogés la semaine dernière. Et pour plus de 2 Français sur 3, l'État et les entreprises ne s'impliquent pas suffisamment pour faire reculer les discriminations à l'égard des personnes handicapées. Alors, Ségolène Neuville, vous êtes la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Vous êtes donc en première ligne. Qu'est-ce que vous inspire ce sondage ?
Je crois effectivement qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire évoluer les représentations, c'est-à-dire l'image en fait des personnes handicapées, qu'ont les Français des personnes handicapées dans la société. Et ça, c'est un travail collectif en fait, c'est pas simplement l'État et les entreprises. Alors, c'est vrai que les employeurs sont les entreprises et la fonction publique, et il y a beaucoup de travail de ce point de vue-là, mais il y a aussi un regard collectif Et nous allons lancer une campagne de communication, en fait, sur ce thème-là, justement, pour faire évoluer le regard. Parce que les personnes handicapées sont d'abord des citoyens comme les autres, qui, pour les enfants, peuvent aller à l'école, faire des études, qui peuvent travailler, qui peuvent militer dans des associations, qui peuvent être amoureux, qui peuvent avoir des loisirs. Et donc, tout cela, il faut vraiment le faire évoluer.
Évoluer le regard, c'est-à-dire que derrière, vous ressentez encore une peur. Ça, c'est quelque chose de généralisé, Pascal Ribes.
Oui, absolument. Je voudrais revenir sur le sujet de l'emploi, parce que nous avons, nous aussi, dans le cadre du comité d'entente des associations représentant les droits des personnes handicapées, lancé un sondage IFOP qui va être publié. Là, dans les minutes qui suivent, aujourd'hui même, et qui souhaitait faire le bilan de la loi de 2005, donc 10 ans après, et qui, donc, sur cet aspect-là, pointe bien les difficultés concernant l'accès à l'emploi, avec un taux de chômage important, et donc, effectivement, des difficultés, les entreprises étant donc les acteurs qui sont les moins bien, j'allais dire, jugés dans le cadre de ce sondage par les trois répondants au sondage, que sont l'opinion publique, les personnes en situation de handicap et les élus.
Un taux de chômage donc plus supérieur pour ces populations.
Un vrai problème. De l'emploi.
Mais est-ce que la loi de février 2005 a introduit une approche tout de même différente du handicap? Est-ce qu'on était là dans une approche radicalement nouvelle dans notre société?
Oui, complètement, puisque la loi de 2005, qui est une très belle loi, et vraiment la question d'aujourd'hui, c'est juste de la faire appliquer pleinement. La loi de 2005, elle reconnaît bien que, en réalité, l'environnement a un rôle essentiel dans le handicap. Si finalement, si vous êtes handicapé, il y a toute une partie qui est liée au fait que l'environnement n'est pas adapté. D'où l'idée et la conception de ce qu'on appelle la prestation de compensation du handicap, qui est donc destinée à pouvoir financer la compensation des aides techniques ou humaines dont vous avez besoin pour accéder à toutes les choses de la vie courante.
Mais est-ce que la définition du handicap était à sa bonne place, Pascal Jacob, dans cette loi?
Moi, je pense que une personne handicapée accompagnée fait partie, est un citoyen à part entière, et même si elle n'est pas accompagnée, mais pour moi, elle doit vivre avec tout le monde et dans le monde de tout, dans le monde ordinaire. Quand on arrive dans une mairie avec son enfant polyhandicapé, la première chose qui arrive, on dit non, c'est pas là, c'est à la MDPH. Eh bien, c'est dommage.
Alors, la MDPH,
c'est la maison départementale des personnes handicapées. Mais je trouve que ça, c'est dommage que la collectivité territoriale, qui est la première aujourd'hui, qui est dans lequel le bassin de vie de proximité se fait, n'est pas encore devenue exemplaire pour que la société puisse limiter dans son accueil à la personne handicapée.
C'est-à-dire que vous trouvez que les personnes handicapées sont encore trop mises à l'écart. C'est peut-être à la différence des pays anglo-saxons où on les voit beaucoup plus dans l'espace public.
J'ai habité à l'étranger. Mmh. J'ai vu l'occasion de rencontrer énormément de pays. Je peux vous dire que franchement, on peut faire beaucoup mieux si nous avons une action de sensibilisation, de motivation, et si on arrive les uns et les autres à chercher à comprendre avant d'avoir des préjugés et d'essayer de sortir des peurs que peuvent représenter le handicap. Ne faut pas avoir peur d'avoir peur. L'important, c'est d'essayer de construire. Regardez un enfant. Quand il regarde une personne handicapée, il voit d'abord la personne, et ensuite, il voit le handicap parfois. Mais lorsque l'on est adulte, on voit d'abord le handicap, et on ne voit pas la personne. Eh bien, il faut s'approprier une certaine obligation et des réflexes de comprendre et de voir la personne avant de voir le handicap.
Et est-ce que vous trouvez que depuis la loi de 2005, les conditions de vie se sont améliorées, par exemple, Pascal Ribes?
Alors, justement, permettez-moi une petite remarque par rapport à la définition du handicap, parce que c'est tout à fait en lien. Je trouve, moi, personnellement, que la loi du 11 février 2005 ne va pas assez loin dans la définition, justement, du handicap. Parce que, en fait, elle positionne l'environnement comme neutre dans la production du handicap. Or, l'environnement n'est pas neutre dans la production du handicap. Le handicap résulte tout autant, finalement, de la déficience de la personne que de l'environnement. Et là, on a un décalage entre la définition qui est dans la loi du 11 février 2005, puisqu'elle parle donc de handicap, de déficience et donc d'altération des facultés subies dans un environnement, comme si l'environnement était seulement neutre. Or, l'environnement n'est pas neutre. À l'inverse de la Convention internationale des Nations Unies, qui, elle, est sur une définition où on voit bien la responsabilité également de l'environnement et donc, du coup, de l'accessibilité aussi au désavantage social qui est subi par les personnes du fait des contraintes donc d'accessibilité, de l'inaccessibilité qu'elles subissent au quotidien. Et pour commencer, si vous permettez, sur la question de l'accessibilité, je voudrais pour l'illustrer partir d'une réalité vécue, à partir de quelques extraits d'une lettre que vient d'adresser un jeune qui s'appelle Nathan Bassuyot, pardon, et qui a écrit une lettre ouverte au président de la République. Voilà. Je m'appelle Nathan Bassuyot, j'ai 19 ans et poursuis actuellement des études de droit à l'université de Bordeaux. Je suis porteur depuis ma naissance d'une infirmité motrice cérébrale, m'obligeant à me déplacer en fauteuil électrique. Je n'ose même plus compter les fois où je n'ai pas pu entrer dans un musée, par exemple, à cause des nombreuses marches à l'entrée. Ni les fois où je n'ai pas pu rejoindre des amis un vendredi soir après les cours. Là encore, à cause de marches à l'entrée d'un café, par exemple. Je vous assure que la moindre sortie nécessite un véritable travail préparatoire en amont. Savoir si le bâtiment où je souhaite aller sera accessible ou non. Puis, trouver l'itinéraire adéquat. Si le bâtiment n'est pas accessible, je dois prendre un fauteuil roulant manuel et demander à quelqu'un de m'accompagner. Je ne suis donc plus autonome, mais au contraire, entièrement dépendante de ma tierce personne et de sa propre force physique.
Alors, merci beaucoup, hein, Pascal Rey, effectivement, de lire ce témoignage. On voit bien le parcours du combattant que c'est dans sa vie de tous les jours pour aller à l'université. Pour vous, Ségolène Neuville, pour lui, pour vivre, commencer par l'accessibilité. C'est vrai que la loi de 2005 n'a pas été appliquée, hein, dans un délai de 10 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, hein?
Eh bien, oui. Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, le témoignage de Nathan, il est vrai, et il est tellement réel. C'est vrai que on ne peut que se mettre à sa place et se dire pourquoi c'est difficile pour lui d'aller à l'université et d'avoir des loisirs. C'est vrai que la réalité, il faut la regarder en face, c'est qu'en 10 ans, il n'y a eu que à peine 30% des établissements qui reçoivent du public qui se sont mis en accessibilité, malgré l'obligation de la loi de 2005 qui fixait la date limite du 1er janvier 2015. Nous sommes le 10 février, donc vous voyez, ça fait un peu plus d'un mois que cette date est passée. Et finalement, depuis 2012, nous nous étions rendus compte, les parlementaires et le gouvernement, que finalement, c'était impossible, que le rendez-vous serait manqué. C'est la raison pour laquelle donc nous avons
repoussé les échéances.
Alors, ouais. C'est surtout que nous avons mis en place ce qui manquait, parce qu'il faut se poser la question de pourquoi est-ce que finalement la loi n'a pas été appliquée. La réalité, c'est que il y a eu une échéance de 10 ans, mais il n'y a pas eu d'accompagnement et finalement il s'est rien passé pendant 10 ans. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place un système qui permette que chacun s'engage dans une démarche d'accessibilité pour une durée de 3 ans pour l'immense majorité. C'est donc les agendas d'accessibilité programmés sont des documents de programmation des travaux, en fait. Et tous les gestionnaires d'établissements, donc de la petite boulangerie à côté de chez vous, à la salle polyvalente d'une petite commune, partout, donc, eh bien, chaque gestionnaire va devoir remplir un document et dire quand est-ce qu'il va faire les travaux et comment. C'est valable pour l'accessibilité fauteuil, mais aussi pour toutes les sortes d'accessibilité. Parce qu'il y a aussi des établissements qui sont inaccessibles pour les personnes qui sont malvoyantes, pour les personnes qui sont malentendantes, pour tout ce qui est le handicap mental, par exemple. Vous savez, il suffit de faire des choses simples. Il suffit simplement qu'il y ait des mots simples qui soient indiqués sur les pancartes, que les numéros des rues soient correctement indiqués, ce type de choses toutes bêtes et qui, en fait, peuvent gêner l'accessibilité pour des personnes qui ont un handicap mental.
Donc, est-ce que ça veut dire aussi que vous avez assoupli les normes, par exemple?
Mais tout à fait, parce ouais. qu'il y avait des normes qui étaient beaucoup trop compliquées. Alors, c'est pas moi qui ai assoupli les normes. En fait, il y a eu un énorme travail de concertation avec les associations, avec les professionnels et avec les associations d'élus locaux. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas été d'accord sur tout. Mais il a bien fallu, à un moment donné, trancher. Et donc, il y a un assouplissement d'un certain nombre de normes. Je vais vous en donner un exemple, pour être simple. Par exemple, dans un restaurant, jusqu'à présent, quand il y avait une mezzanine, il y avait une obligation de mettre un ascenseur. Désormais, si l'activité qui a lieu dans la mezzanine est inférieure à 25% de l'activité totale du restaurant, il n'y aura pas d'obligation de mettre l'ascenseur, dans la mesure où les personnes qui ne peuvent pas monter peuvent être accepté au rez-de-chaussée et que c'est exactement la même chose, le même service au rez-de-chaussée et au premier. Il y a toute une série d'exemples comme ça pour simplifier, pour que en réalité, l'accessibilité concrète soit mise en œuvre. Parce que moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait des résultats concrets. Tout va pas être parfait tout de suite. En revanche, ce que je veux, Et vraiment, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est que ça avance.
Parce que 40%, j'ai vu aujourd'hui, des transports en commun, par exemple, ne sont toujours pas aux normes. On parlait de la difficulté de venir jusqu'ici. Est-ce que vous pensez vraiment que ce recul, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'échec, est-ce que pour vous, c'est un constat? Seulement 30%, effectivement, des établissements qui reçoivent du public sont aux normes aujourd'hui. Il y aura donc un planning, maintenant, si j'ai bien compris, d'ici 3 ans où chacun devra déposer, comment il va s'organiser?
Le dépôt des agendas, ouais, c'est d'ici septembre 2015. Et donc, chacun va devoir s'engager d'ici le mois de septembre dans son programme.
Et s'il ne le fait pas, est-ce qu'il y a des sanctions?
Alors, les personnes qui ne déposent pas l'agenda, ils sont sous le coup de la loi de 2005, donc c'est des sanctions pénales, 45 000 euros d'amende. Et pour les personnes qui déposent un agenda mais qui ne le respectent pas, là, c'est des sanctions qui sont pécuniaires de type administrative et donc les montants sont moins importants parce que les personnes se sont quand même engagées dans la démarche.
Pour
Pascal
moi,
Jacob.
Oui, moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on va faire des travaux quand il y aura besoin de travaux. Et je trouve que tant qu'il n'y a pas de trou dans le toit, on ne répare pas le toit. Et aujourd'hui, le manque d'accessibilité n'apparaît pas dans la sensibilité des personnes. Et ça, c'est essentiel. Si on veut que tout le monde soit motivé, il faut qu'on montre le trou qu'est la non-accessibilité. Et que la personne elle-même soit sensibilisée et motivée. Je pense que ça, c'est notre premier travail. Parce que la contrainte, vous savez, dans les pays où l'accessibilité est née, parce qu'elle est le fruit d'un accueil.
Mais il faut reconnaître aussi que c'est un énorme chantier. Enfin,
mais
pour ces
tout
gens
à fait
qui
d'accord,
investir,
mais il faut
pour se mettre aux normes.
Si je peux vous dire, c'est un énorme chantier. On en a fait des bien plus durs. Mais s'il faut, c'est motiver, français par français, de savoir que rendre accessible est une forme d'accueil fondamentale. Et pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui ne voient pas le trou dans leur toit.
Il faut savoir juste sur le plan financier qu'il y a la Caisse des dépôts et consignations donc, qui fait des prêts bonifiés pour les collectivités locales pour permettre la mise en accessibilité. Et pour toutes les entreprises privées, les commerçants, etc., BPI France fait également des prêts bonifiés. Je le dis parce que comme ça, les gens vont pouvoir demander à BPI France et à la Caisse des dépôts.
Pascal Ribe, vice-président de l'Association des paralysés de France, quand vous entendez ce discours, qu'est-ce que ça vous dit?
Alors moi, j'ai envie de dire qu'il faut se rappeler déjà comment l'architecture de la loi du 11 février 2005, comment elle a été pensée. En fait, la loi du 11 février 2005, son objectif, c'est d'arriver effectivement à l'inclusion sociale. Et donc, pour ça, elle a posé quand même deux grands principes, ou deux grands piliers, c'est-à-dire l'accessibilité universelle, et la compensation individualisée à hauteur des besoins. Pour une personne en situation de handicap, ces deux principes sont véritablement interdépendants et c'est l'un plus l'autre qui permet de réaliser l'inclusion sociale. Autrement dit, sans accessibilité, il n'y a pas de liberté pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est vraiment crucial au jour d'aujourd'hui. L'ordonnance, pour nous, est un système qui permet malheureusement de déroger, dans certains cas, à l'obligation d'accessibilité et donc de condamner certaines personnes à vivre, à ne plus pouvoir donc participer à la société. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Nous estimons que nous ne sommes pas contre la programmation des travaux. Bien évidemment, tout à fait d'accord pour pouvoir programmer les travaux de mise en accessibilité. Par contre, nous pensons que le système mis en place au jour d'aujourd'hui, en vérité, permet d'exonérer et de déroger à cette obligation d'accessibilité et c'est cela qui nous heurte profondément.
Alors, on va continuer de faire le point sur les avancées de la loi, depuis 10 ans de cette loi. On va continuer dans la deuxième partie, dans 3 minutes après le flash. On va se retrouver autour de certains dossiers chauds, comme le plan sur la question belge, par exemple, ou l'accès aux soins des personnes handicapées qui n'étaient pas prises en compte dans la loi. Le plan autisme aussi que vous avez mis en place, Ségolène Neuville. On se retrouve donc dans 3 minutes avec vous, Ségolène Neuville, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Pascal Ribe, vice-présidente de l'Association des paralysés de France, et Pascal Jacob, président de l'Association en didactique et vice-président de la FIRA, c'est la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes, tout de suite après le flash. Le téléphone, c'est toujours le même, le 33 1 84 22 75 75, et vous pouvez déposer vos commentaires sur nos pages Facebook.
Priorité santé. Sandrine Mercier.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Priorité Santé et aujourd'hui, priorité aux handicapés, aux personnes handicapées. C'est comme ça qu'il faut dire. La France accuse un retard considérable en la matière et n'ayons pas peur des mots. Notre pays fait comme si cette population était invisible, mais peut-être est-ce en train de changer. Il y a 10 ans a été votée une loi sur le handicap de 2005. Où en est-on aujourd'hui? En France, on est censé scolariser tous les enfants. Est-ce le cas? Des milliers de parents d'enfants handicapés se tournent vers la Belgique, car ils ne trouvent pas de solution en France. Peut-on parler d'exilés mentaux? Nous aurons tout à l'heure Jeanne Aubert, qui a écrit un livre parce qu'elle était concernée par sa fille polyhandicapée. Elle nous interpellera. Côté soins aussi, il semblerait que l'accès soit loin d'être égalitaire. Le personnel de santé est-il prêt à accueillir les personnes atteintes d'un handicap et comment faire pour améliorer la prise en charge? On attend vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 75 75 et sur Facebook. Et nous sommes aujourd'hui avec Ségolène Neuvy, le secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et de la loi et de la lutte contre l'exclusion, Pascal Ribes, vice-présidente de l'Association des paralysés de France, et Pascal Jacob, président de l'Association handidactique et vice-président de l'AFIRA, c'est la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap. Alors pour commencer cette deuxième partie, j'aimerais qu'on parle d'un nouveau terme qui émerge vraiment ces dernières années, on parle d'inclusion. Pascal Ribes, vous avez fait mention de ça aussi tout à l'heure, juste avant le flash. Alors, qu'est-ce que ça recouvre, ce mot, Ségolène Neuvy, inclusion? Comment est-ce qu'il faut le lire, l'entendre?
Mais tout simplement, ça veut dire que les personnes qui ont un handicap sont des citoyens et des citoyennes comme les autres et doivent donc avoir accès à tout, au droit, ce que j'appelle le droit commun. Le meilleur exemple, c'est l'école. Si on veut faire changer les choses, il faut que tous les enfants qui ont un handicap puissent avoir accès à l'école au sein de l'éducation nationale. Bien sûr, accompagnés par des personnels qui sont professionnels du médico-social, qui donc peuvent les aider à acquérir les savoirs avec les enseignants. Et c'est alors quelque chose qui est en marche déjà, puisque le nombre d'enfants scolarisés à l'éducation nationale a doublé depuis les 6 dernières années. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que les professionnels du médico-social soient formés à aller au sein de l'éducation nationale et puis que tous les professionnels de l'éducation nationale soient formés également. C'est ce que nous faisons avec la ministre de l'éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Nous souhaitons aller vraiment beaucoup plus loin dans ce domaine.
Donc ce mot inclusion, pour vous, il apporte vraiment une dimension supplémentaire par rapport à l'intégration, qui était le mot couramment utilisé, Pascal Jacob?
Pour moi, oui. Si vous voulez, l'inclusion, c'est, j'aimerais mieux qu'on dise le vivre ensemble. Et ce qu'il y a d'extraordinaire...
Oui, c'est plus parlant que inclusion, qui est un mot un peu barbare.
Le vivre ensemble, pour moi, est plus riche que la notion d'inclusion. Et ce que je trouve de fort dans l'école, c'est que aujourd'hui, la présence de la personne handicapée dans une classe, c'est une richesse. C'est d'abord une richesse. Et la motivation que nous avons... Vous savez, protéger vos enfants de la différence, c'est les appauvrir. Et moi, je vous dis très franchement, chaque fois, et j'ai été en 1995 une des personnes à frapper aux portes des écoles. Mon argument pour pouvoir proposer à des directeurs d'école d'accueillir des personnes handicapées, c'était d'abord la richesse. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que nous sommes revenus, 6 mois, 2 ans après, cette richesse était visible dans les yeux et des enfants dans la cour. Et je pense que c'est ça qui est à gagner. Et je vous dis, pourvu que la société ait ce même sourire que les enfants dans la classe.
Oui, vous avez une notion, vous dites, Pascal Jacob, le handicap n'est pas à part, c'est une partie du patrimoine de l'humanité. Donc effectivement, c'est ce qu'on essaye de montrer aujourd'hui. Donc 10 ans après cette loi de 2005, vous parliez de l'école. Je ne sais pas si on va avoir tout de suite au téléphone Jeanne Aubert qui justement, oui, déjà, c'est le moment. Puisqu'on est en train de parler de l'école, on disait, est-ce qu'il y a de la place pour tous? Est-ce qu'il ne manque pas des milliers de places aussi pour les enfants dans les établissements spécialisés ici en France? Et côté scolarité, donc on est loin de cette égalité pour tous. Alors qu'est-ce qu'on s'entend dire pour les parents? Souvent, bien, on propose aux parents la Belgique. Alors on va tout de suite prendre Jeanne Aubert qui raconte son histoire dans un livre qui est sorti aux éditions Bayard. Ça s'appelle « Les exilés mentaux, un scandale français ». C'est aux éditions Bayard. Bonjour Jeanne.
Bonjour, je vous remercie de m'accueillir à nouveau. Bonjour M'attardez pas, Monsieur Jacob et Madame Ribes.
En tout cas, vous témoignez de votre parcours du combattant, un parcours qui rend fou hein, aussi pour essayer de trouver une solution pour votre fille qui est polyhandicapée. Vous en êtes où aujourd'hui, Jeanne ?
Alors oui, je veux bien parler de mon parcours, mais mon parcours pour moi est emblématique de milliers de parcours et c'est pour ça que j'ai pris le choix de l'écrire et de le raconter. Après 26 mois, nous avons enfin trouvé une place dans un établissement de 36 places, pas du tout grâce au dispositif Carlotti, qui, excusez-moi vulgairement du terme, balade les familles en leur faisant des promesses. Mais nous avons donc trouvé une place où il y avait 36 places offertes et 101 demandes en cours. Donc c'est pour dire qu'un certain nombre sont restés sur le côté.
Mais on vous proposait comme ça assez ouvertement, on vous disait mais pourquoi n'allez-vous pas voir du côté de la Belgique ? C'était la solution qu'on vous proposait.
Oui, oui, effectivement, nous on s'est retrouvés dans une situation de rupture de prise en charge qui a été dénoncée dans le rapport Pifto en juin dernier. Rupture de prise en charge pour laquelle aucune administration n'a réagi, bien qu'on ait signalé qu'elle avait lieu dans un contexte qui peut apparenter un dysfonctionnement grave. Donc il n'y a eu aucune réaction. Nous avons saisi le préfet, nous avons saisi l'agence régionale de santé, nous avons saisi les conseils généraux, aucune réaction et nous nous sommes retrouvés sans solution. Au bout d'une année, mes enfants et moi-même étant un peu fatigués, on nous a proposé la MDPH et les établissements que nous contactions de nous mettre en lien avec la Belgique. Et c'est là que j'ai découvert, je dirais, l'étendue du marasme, c'est-à-dire ces familles qui, par défaut, par épuisement, par fatigue, acceptent des exils aussi bien en Belgique que des exils au niveau national, puisqu'il y a des familles qui ont leur enfant à 300, 400 kilomètres, alors qu'ils ont eux-mêmes, qu'ils n'ont plus l'âge de se déplacer et de garder des liens familiaux indispensables dans ces situations.
Alors, Jeanne Aubert, vous restez avec nous. Pourquoi la France se défaut sur la Belgique, Ségolène Neuville ?
Écoutez, je crois que, déjà, je voudrais remercier Madame Aubert de son témoignage, parce que c'est extrêmement important qu'elle fasse savoir ce type de parcours du combattant. Nous sommes actuellement dans un changement complet. C'est-à-dire que désormais, il y a eu un accord entre la France et la Wallonie, précisément pour mettre un terme à ce type de pratique. Alors, quand je dis mettre un terme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je ne souhaite plus qu'il y ait des familles qui soient obligées d'aller exiler leur enfant ou quelqu'un de leur famille dans les établissements belges s'ils ne le souhaitent pas. Et c'est dans l'immense majorité, ils ne le souhaitent pas. On voit bien son témoignage. Alors, comment faire ? Bien sûr, il faut créer des places. Et donc, c'est ce que nous faisons. Il y a encore en 2015 presque 5000 places qui sont prévues à l'ouverture dans l'ensemble des agences régionales de santé. Mais en attendant que toutes ces places soient créées, ça ne suffit pas. Il faut aussi sécuriser les choses dans les établissements en Wallon. C'est pour ça qu'il y a un accord entre la France et la Wallonie. C'est précisément parce que maintenant, les services français de contrôle, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais et les services de la Wallonie, eh bien, vont ensemble dans les établissements et évaluent les pratiques ensemble.
Mais est-ce que ces établissements sont irréprochables ?
Alors, il y a plusieurs sortes d'établissements. Il y a des établissements qui sont dits conventionnés et d'autres qui sont non conventionnés. Pour ce qui est des établissements conventionnés, il y en a de très bonne qualité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des familles qui ont souhaité mettre leur enfant en Belgique. Quelques-unes, hein, c'est évidemment pas la majorité.
Et ça, la France paye.
Bien entendu. Et puis, il y a des établissements qui ne sont pas conventionnés et qui sont mal contrôlés. C'est la raison pour laquelle la Wallonie souhaite effectivement organiser de meilleurs contrôle avec nous. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants ou d'adultes qui aillent dans des établissements non conventionnés. C'est ce que nous mettons en place avec cet accord, avec un comité de suivi. Nous avons renforcé les moyens de l'ARS Nord-Pas-de-Calais justement dans cet objectif. Et donc, moi, je suis très déterminée pour justement inverser cette courbe, enfin cette tendance qu'il y a à aller mettre les enfants en Belgique. Parallèlement, il nous faut aussi mieux former les professionnels en France, parce que sur l'autisme par exemple, il y a eu des enfants qui ont été placés en Belgique parce qu'il n'y avait pas assez de professionnels correctement formés aux méthodes recommandées par la Haute Autorité de Santé en France. C'est ce que nous faisons aussi avec le plan autisme, avec la formation continue. Il y a environ 1000 professionnels qui sont formés chaque année sur les nouvelles méthodes, les méthodes comportementales de prise en charge de l'autisme. C'est là-dessus qu'il nous faut avancer de notre côté.
Est-ce que vous avez estimé le nombre de places qu'il manquait, par exemple, vous, Jeanne Aubert, quand vous avez fait votre enquête pour votre livre « Les exilés mentaux »
Oui, alors étonnamment, les personnes en situation de handicap mental, on n'arrive pas à les compter alors qu'on compte beaucoup de choses en France. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'échelle de mon département, on sait qu'il y a minimum 250 personnes sans solution et on peut répéter ça dans de multiples départements français. Je remercie Madame la secrétaire d'État de trouver que mon témoignage est intéressant puisque j'ai sollicité à plusieurs fois la possibilité de la rencontrer sans réponse. Mais je voudrais rappeler l'article 67 de la loi de 2005, puisque c'est les 10 ans de cette loi que nous fêtons aujourd'hui. L'article 67, M. Chaussy, qui en était rapporteur de cette loi, espérait qu'il y ait une réelle anticipation sur les besoins. Il prévoyait que des places soient créées en suffisance et en qualité, je lis l'article, pour créer selon une programmation pluriannuelle des places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées de plus de 20 ans. Aujourd'hui, sur les cas complexes, on nous annonce 300 places, une création de 300 places pour les cas complexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 5000 places, elles sont prévues depuis des années. Je suis désolée, Madame la secrétaire d'État. Depuis des années, elles sont prévues et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prises puissent répondre à une insuffisance qui est probablement, alors on peut jouer sur les mots, il y a les solutions adaptées, les solutions non adaptées, mais je ne sais pas qui autour de la table accepterait que son enfant de 6 ans doive attendre 3 ans pour avoir une place.
Oui, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, Jeanne Aubert, c'est pour se mettre à votre place. C'est comme si on vous disait, ben non, il n'y a pas de place pour votre enfant en CP. Vous attendez 3 ans et elle ira en CP peut-être s'il y a une place dans 3 ans. Ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement, qu'on a du mal à imaginer.
Pour le polyhandicap, je me permets, Mme Neuville a eu longuement la parole, donc je la prends un tout petit peu. Sur le polyhandicap, il y a des personnes qui sont aujourd'hui en défaut de soins. Je suis médecin, Mme Neuville est médecin. À titre personnel, je considère que c'est une mise en danger, une non-assistance en personne à ces personnes, grands polyhandicapés, qui sont à domicile, avec des soins qui ne peuvent pas être les mêmes qu'en établissement. Donc aujourd'hui, il faut faire preuve de créativité. Il faut savoir qu'en payant des places en Belgique, on paie aussi des emplois en Belgique, alors qu'on est un pays qui est en déficit en termes d'emploi. Et le chiffre qui peut être avancé, excusez-moi, il y a un peu d'écho quand on vous parle, mais le chiffre qui peut être avancé est de l'ordre de 50 000, parce qu'en 2020, 20 000 personnes handicapées, mentales, vieillissantes, supplémentaires, auront besoin d'une solution adaptée, sinon ils vont rester dans les établissements qui seront modifiés et les plus jeunes n'auront pas encore de solution. Donc on a besoin d'un plan d'urgence, de créativité, des appartements accompagnés, des solutions moins onéreuses que des établissements, mais il y a urgence à prendre en compte ces personnes dans leur humanité et des personnes souvent que j'appelle hors normes et comme M. Jacob, je sais combien elles peuvent nous apporter.
Merci beaucoup, hein, Jeanne Aubert, pour votre témoignage. Donc, je rappelle votre livre hein, qui raconte aussi votre parcours à vous. Les exilés mentaux, un scandale français, c'est aux éditions Bayard. Ségolène Neuville, alors face à ce cri qui est lancé...
Je voudrais répondre sur deux points. Le premier, c'est sur effectivement l'absence de chiffres sur le nombre de personnes handicapées qui ont besoin d'être en établissement. C'est la réalité en France. Il n'y a pas de données épidémiologiques sur le handicap. J'en parle d'autant mieux que je suis moi-même en partie épidémiologiste, étant spécialisée dans les maladies infectieuses. Et donc, c'est un des premiers chantiers, évidemment, que j'ai ouvert en arrivant avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le fait de récupérer toutes les données des maisons départementales du handicap, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait des chercheurs, des médecins, des épidémiologistes qui travaillent sur le handicap pour améliorer cette question. Sur la question des places et en particulier de toutes les situations qu'on appelle les situations critiques, c'est-à-dire les situations un peu extrêmes, finalement, où les familles se retrouvent sans solution, eh bien, il y a donc maintenant un système qui permet la remontée de ces situations au niveau national. Il y en a eu un peu plus de 100 qui ont été recensés. Alors, évidemment, il y en a plus que ça dans chaque département, mais elles ne remontent pas toutes jusqu'au niveau national. Et moi, j'ai décidé justement parce qu'il y a une situation d'urgence que les nouvelles places qui ouvriraient, eh bien, on va les cibler tout simplement sur ces situations critiques. Ça veut dire quoi ? Plutôt que d'attendre que des nouveaux établissements se construisent, il va y avoir un certain nombre de places qui vont être fléchées pour rajouter, agrandir dans des établissements préexistants. Par exemple, dans un département, quand il y a 3 ou 4 personnes qui sont en situation critique parce qu'elles n'ont pas de place, eh bien, des moyens seront rajoutés par l'Agence régionale de santé pour rajouter ces places-là dans un établissement préexistant, précisément pour eh bien, qu'il n'y ait plus ces situations extrêmes. Et donc, les nouvelles places qui vont ouvrir, c'est ce que nous avons discuté la dernière fois avec les associations de personnes handicapées, elles vont être fléchées pour ça à partir de 2015. C'est ma décision.
Priorité santé sur RFI.
10 ans après la loi de 2005 sur le handicap, où en est-on dans Priorité Santé? Avec vous, Pascal Jacob, président de l'association Handidactique, j'ai envie qu'on parle du rapport que vous avez remis sur l'accès aux soins des personnes handicapées. C'était en juin 2013, donc Madame la Ministre. C'est un sujet qui manquait dans la loi de 2005, l'accès aux soins. Alors qu'est-ce que vous avez pointé comme problème?
Eh bien, écoutez, je pense que ce que vient de dire Madame Neuville me convient tout à fait. En effet, on ne sait pas très bien. On manque de recherche. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Pascal Ribes et moi-même, nous travaillons d'arrache-pied à la FIRA, qui est la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée au Handicap, pour trouver des solutions. Dans le rapport, moi, il y a deux choses qui m'ont... pour être direct, qui m'ont ébranlé. La première chose, c'est qu'on n'a pas une situation de capacité de soins courants et de prévention des personnes handicapées. Et quand on n'a pas ça, on soigne trop tard. Donc, un certain nombre de statistiques montrent que près de 70% des personnes handicapées abandonnent tout ou partie de leurs soins courants. C'est une situation extrêmement difficile.
Oui, vous pointez que les professionnels de santé, d'ailleurs, n'ont pas vraiment été préparés à accueillir et à prendre en charge les personnes handicapées.
C'est le premier. Alors, ouais. On va finir. Et pas de prévention. C'est dommage, parce que quand on découvre une tumeur cancéreuse sur une personne valide, elle fait en moyenne 3 mm. Lorsque l'on découvre une tumeur sur une personne handicapée, elle fait en moyenne 4 cm.
Donc c'est trop tard.
C'est trop tard et c'est dommage. Le deuxième point, c'est de l'autre côté. Est-ce que les professionnels du soin ont été formés et ont été rencontrés le handicap dans leurs études, eh ben non.
Et vous racontez aussi à quel point le passage aux urgences est catastrophique.
Alors, les urgences sont comme tout le monde, et je dois, pour y avoir été, pour y avoir filmé, pour y avoir été avec beaucoup de fois, et pour avoir attendu avec mes deux enfants des heures et des heures, je voudrais dire que, quand on arrive avec un Clément ou un Romain, et que on voit des professionnels du soin qui ont peur, comme tous les autres, de mes enfants, parce que ils sont IMC et autistes, ou IMC épileptiques, et qu'on ne sait pas très bien comment les prendre. C'est normal. Qu'est-ce que demandent aujourd'hui les professionnels de santé? Un, d'être formés, sensibilisés et motivés. Mais dès le début de leurs études. Et c'est ce que nous proposons dans le plan. Et ce plan-là, il est très bien accueilli par le gouvernement. Et nous l'avons essayé de le rendre pratique en fédérant tous les acteurs du soin à travers une charte qui a la chance de porter le nom de mon fils Romain qui est décédé il y a très peu de temps. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis résolument optimiste quand je parle avec les professionnels, quand je parle avec le gouvernement, parce que toutes les planètes sont réunies pour qu'on fasse un progrès et que le curseur vers un meilleur soin soit. Nous avons eu la chance de réunir le rapport de la Stratégie Nationale de Santé et le rapport sur l'accès aux soins des personnes handicapées. Il n'y a pas de médecine. Il n'y en a qu'une adaptée à chacun.
Mais Ségolène Neuville, je pense qu'elle peut vous répondre. Elle est aussi médecin hospitalière, donc j'imagine que c'est effectivement un sujet qui la touche en tant que secrétaire d'État aussi en charge des personnes handicapées. Aller vers un meilleur soin aussi vers ces personnes.
Bien sûr que c'est un sujet que je prends très à cœur. Et le sujet de la prévention, Monsieur Jacob l'a très bien dit, et c'est la raison pour laquelle le président de la République a annoncé lors de la conférence nationale du handicap qu'il y aurait désormais dans les contrats, vous savez que signent les établissements médico-sociaux avec les agences régionales de santé, eh bien, il y aura une obligation qu'il y ait de la prévention dans les établissements. Il va falloir aussi former les professionnels du médico-social, les travailleurs sociaux, à ce que c'est que la prévention et à ce que c'est que un peu de sanitaire, les maladies. Et puis, il va falloir aussi que l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé fasse des documents qui soient plus simples et plus faciles à comprendre pour toutes les personnes, pour que ce soit accessible, que ces messages-là passent même pour quelqu'un qui a un handicap mental. Ça s'appelle le français facile à lire et à comprendre. Et donc ça, nous allons le faire également. Et puis évidemment, il y a la vraie question de la formation des professionnels du sanitaire. Là, moi, je peux en témoigner moi-même. Il y a un manque de formation sur le handicap, ce que dit Monsieur Jacob est très vrai. Et alors, il y a ça, puis il y a l'accessibilité des locaux. Il y a sur lequel
l'accessibilité des cabinets
médicaux. Nous
allons
avancer, bien entendu, avec les agendas d'accessibilité programmés. Et puis, dans les maisons pluriprofessionnelles de santé, donc les agences régionales de santé vont négocier avec ces maisons et avec les professionnels qui seront dedans pour qu'il y ait des consultations dédiées. Alors, vous allez me dire, du coup, c'est pas de l'inclusion parce que c'est des consultations à côté. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que les personnes puissent consulter partout un médecin généraliste et un professionnel de santé pour les problèmes de la vie quotidienne quand on a une grippe, quand on a des petits problèmes de santé. Et du coup, ça aide aussi pour la prévention des plus gros problèmes.
Alors, nous allons tout de suite prendre Amina qui nous appelle de Paris et qui a envie de témoigner aussi puisqu'elle est mère d'une personne handicapée. Bonjour Amina.
Bonjour madame et bonjour aux invités, bonjour à madame le ministre.
On vous écoute.
Moi je voulais juste témoigner parce que je vous ai bien écouté et c'est un problème qui me porte beaucoup à cœur puisque moi-même, comme vous l'avez dit, je suis mère d'enfants handicapés. Tout ce qui a été dit est la réalité que nous vivons en tant que parents. Mais je voulais insister sur le fait que quand on a la chance d'avoir un enfant qui est pris en charge dans un établissement, qu'au bout d'un certain temps, l'établissement manque de moyens financiers notables. Parce que des fois, on nous demande de participation quand on est dans un foyer modeste, de participation quant aux sorties, aux loisirs et d'autres choses, et qu'il y a certaines activités aussi qui sont supprimées par manque financier. Je crois que c'est des choses qu'il faut voir. La deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est par rapport à l'organisation des vacances de ces enfants. Souvent, moi je travaille et l'établissement est fermé, l'enfant se retrouve dans une situation où j'ai pas pratiquement forcément les moyens de l'envoyer puisque ça coûte excessivement cher en vacances et il n'y a pas d'association formée ou d'encadrement formé ou existant qui peut prendre le relais des parents. C'est des charges qui sont énormément lourdes pour les familles qui ont ces enfants handicapés ou des personnes handicapées.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Amina. Oui, Pascal Jacob, envie de vous répondre.
Merci, madame, pour ce témoignage qui est remarquable. Je dois vous dire que pour moi, et comme le dit Guy Agege, qui est le président de la FEGAPI, il faut que le médico-social se fonde dans la société ordinaire. Pourquoi ? Parce que, en effet, si nous voulons qu'on ait accès aux loisirs, qu'on ait accès aux vacances, le médico-social doit avoir une prolongation dans la société pour pouvoir accueillir les gens, mais non pas dans un loisir propre au handicap, mais dans un loisir commun à tout le monde. C'est le sport, c'est le cinéma, c'est la culture. Et ça, je crois que c'est important. C'est la même chose pour les vacances. Tous les pays qui réussissent bien ça, ont un accompagnement des personnes au-delà des professionnels. Et ce réflexe est une richesse pour toute la société.
Alors vous parliez effectivement des loisirs, on peut parler aussi de la sexualité. Pascal Ry, par exemple, vous militez, vous, pour des assistants sexuels. La sexualité ne faisait pas partie de la loi de 2005. Le comité d'éthique a dit non aux aidants sexuels.
Oui. Enfin, alors, donc, nous avons effectivement, vous l'indiquez, monté un collectif interassociatif, hein, je le précise, sur la question de la sexualité des personnes en situation de handicap, qui milite en faveur, effectivement, de la création d'assistance sexuelle, dit sexuelle. Cela étant, la question de la sexualité ne se résume pas que à l'assistance sexuelle non plus. Et c'est une question cruciale, donc, pour les personnes en situation de handicap, puisque ce sont des êtres humains, et donc des êtres sexués à part entière, et à partir de là, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on constate avec regret, c'est que cette dimension-là n'est absolument pas du tout prise en compte et il n'y a pas de réponse, que ce soit pour la vie affective, familiale ou sexuelle des personnes en situation de handicap au niveau des prestations qui sont développées par la loi du 11 février 2005.
Ségolène Neuville.
Eh bien, évidemment, la vie sexuelle, mais enfin la vie affective, la vie sentimentale des personnes, qu'elles aient un handicap ou non, en fait, est absolument essentiel. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai rencontré récemment le planning familial parce que je crois qu'il est important, notamment pour ce qui est de ma responsabilité, les établissements médico-sociaux, je crois qu'il est important que les professionnels soient formés finalement à la possibilité de vie sexuelle pour les résidents. Et je crois aussi que les personnes elles-mêmes qui résident dans ces établissements doivent pouvoir poser des questions, doivent pouvoir s'informer sur les questions liées à la sexualité, sur les questions liées à la contraception. Alors, bien entendu, pour ce qui concerne la question des aidants sexuels, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, il s'agirait de finalement réglementer des rapports sexuels tarifés. Et ça, on sait bien qu'en France, pour le moment, c'est finalement interdit par la loi.
Donc, c'est assimilé à la prostitution, ce que donc vous contestez. Merci beaucoup, Madame la ministre Ségolène Neuville, d'avoir été avec nous en direct. Vous êtes secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci à vous, Pascal Ribes, vice-présidente de l'Association des paralysés de France, et Pascal Jacob, président de l'Association handidactique et vice-président de la FIRA. C'est la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct. Merci à toute l'équipe. Et demain, ce qu'il faut savoir sur la schizophrénie, c'est le sujet de Priorité Santé. On attend vos témoignages au 33 1 84 22 75 75. Et Facebook, toujours là aussi pour accueillir vos commentaires. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.